Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Alors, aujourd'hui les garçons, on revient à des sujets sérieux.
Oh non,
ah ouais, non, non, si, ça commence à bien faire de rire de tout là.
Oh,
on reçoit Gérald Bronner.
Ah, voilà. Mais tu viendras nous parler de sa carrière de cycliste.
Le roi de la piste, on l'appelle.
Oh non, non, mais croyez pas si bien dire parce que c'est un sociologue tout terrain.
Ah, ah, on est dans le thème alors.
Ouais, alors donc un sociologue Gérald Bronner qui travaille sur les croyances collectives.
Il croit au Père Noël donc.
Non, il réfléchit sur des choses qui nous touchent directement, comme les mécanismes d'entrée dans une secte, la radicalisation, principe de précaution.
Regarde le livre, le retour des Illuminati. Les ballons ronds, les soucoupes volantes, voilà. Nabila.
Ah oui, il a vraiment bossé sur tout le gars.
Qu'est-ce que tu crois ? Il peut parler de tout.
Bah non, j'ai une idée, bon, on a qu'à l'inviter tous les jours.
Ah, mais ça, c'est une excellente idée, c'est du génie. Il serait notre invité perpétuel.
Mais comme ça, on se fatigue plus avec les jeunes acteurs inconnus de Charline, les militantes Nuit debout de Guillaume,
les chanteuses en phase terminale d'Alex.
Mais en tout cas, ça marcherait. Hein. Imaginons. Bonjour Gérald, alors aujourd'hui, nous allons traiter des coléoptères de Nouvelle-Zélande.
Et le sujet 2, on parlera du rapport qu'entretiennent les Français à la trigonométrie 14 et 16.
On terminera par l'essor du skateboard en région viticole. Gérald Bronner, vous en pensez quoi?
Ça y est, vous avez fini là?
Alors, et sinon, comme dernière question, monsieur Bronner, qu'est-ce que vous pensez de cette formidable émission qui est par Jupiter?
Ah, bah attends, t'as mis la réponse dans la question là, on dirait Charlie.
Bah ouais, on dirait
Charlie. C'est fini, oui!
Oui.
Oui, c'est fini.
Ouais, il y avait la réponse aussi dans la question.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up émission qui update l'actualité dans le workshop de la blague. Et voici la présentation PowerPoint des trois informations que nous allons upgrader. L'État islamique est sur le point d'être vaincu en Syrie, mais que faire des djihadistes français capturés par les Américains? Faut-il les rapatrier? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui une fois qu'ils reviennent?
Vous êtes sûr que c'était prévu pour aujourd'hui? Et vous ne pouvez pas revenir demain, parce qu'aujourd'hui je me sens rendu.
Pour calmer leur déception, leur déception de la politique, des citoyens et même certains élus déclarent « Je ne crois plus en la politique. Croire comme on croit en la religion ou croire comme... »
Je ne suis pas le Père Noël et vous n'êtes pas des enfants.
Voilà. La disparition de Karl Lagerfeld déclenche une pluie d'hommages. Même le journal L'Humanité lui consacre une page, mais pas piqué des hannetons parce que bon, Karl, il était populaire parce qu'il passait à la télévision, mais ses créations n'étaient pas non plus hyper accessibles.
Ça sert à rien que je le donne, quoi. Faut avoir une occasion, faut avoir une soirée. Les pauvres, ils ont pas de soirée, quoi. Je garde.
Voilà. Lui, il ne mise pas tout sur le même créateur. Sa garde-robe est une sorte de patchwork. Bonjour Alex Vizorek.
J'ai pas trop fait attention, effectivement, aujourd'hui. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et j'ai une belle équipe autour de la table. Malgré tout, à 17h20, l'homme qui comprend mieux le monde que ses chroniques ne le laisse transparaître, c'est Hippolyte Girardeau. Bonjour.
Bah bonjour, moi je suis enchanté d'être à côté de Gérald Bronner, que j'admire beaucoup par ailleurs. Pour cette façon d'analyser le monde, justement, et j'en parlerai avec effort, mais avec justesse, je pense.
Mais dites donc, à 17h30, parfois il s'attaque à des grands problèmes de ce monde, mais parfois il est également capable de s'attaquer à des sujets plus légers, comme aujourd'hui l'antisémitisme.
Oui, un petit sujet léger, on va bien rigoler. Je suis allé voir des Français pour parler d'antisémitisme, et notamment des Juifs.
Pourquoi un Arabe, quand il dort le soir, il a le doigt dans le cul?
Je sais pas.
Parce que même la nuit, il cherche la merde.
Ouais, on va rigoler. Régler le conflit israélo-palestinien, on va rigoler.
Et enfin, à 17h40, j'ai découvert un truc absolument inintéressant à son sujet. C'est la seule personne que je connaisse dont le nom comporte deux fois plus de voyelles que de consonnes. C'est vous, Rukia Tawedraogo.
Des lancements, il y a plus d'idées pour les lancements.
Trouvé ça en dernière minute. De quoi on va parler?
Ah bah bonjour Alex, aujourd'hui nous allons parler des gilets jaunes à Ouagadougou, point d'interrogation.
C'est pas vrai, jusque là c'est la mondialisation à tout craint. Et voici celui qui va tailler un costard à l'actualité, je vous laisse nous annoncer qui vous êtes.
Je suis donc Gérald Bronner.
Mais c'est lui.
Je me tiens prêt à travailler pour vous, si j'ai bien compris.
Oh là là, avec joie, allons-y.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Gérald Bronner dans Par Jupiter.
Merci de m'accueillir.
Ah mais écoutez, avec joie, vous publiez le cabinet de curiosité sociale au PUF, Presse universitaire de France. Ce sont notamment des chroniques que vous avez écrites pour la Revue des Deux Mondes, pour Le Point.
Oui, pour La Science.
Pour La Science, exactement. La Revue des Deux Mondes, vous avez croisé Pénélope?
je l'ai croisé un peu, mais je n'ai pas été payé au même niveau.
Ah, elle l'a croisé quand même, d'accord.
Rassurez-vous, elle n'a pas travaillé au même niveau que vous.
Alors, il y a à peu près 75 chroniques, Gérald Bronner, qui vont de « Pourquoi les réseaux sociaux nous rendent-ils malheureux ?»« Pourquoi les extraterrestres sont-ils chauves ?»« Pourquoi François Mitterrand voyait-il Elisabeth Tessier ?» Quand je prends ces trois énoncés, on se dit « Tiens, quel est donc le fil conducteur de tous ces textes, de ces 75 chroniques ?» À partir de quoi partez-vous à chaque fois? Parce que si on lit juste le sommaire, on se dit mais...
Et puis vos auditeurs doivent être contents de savoir que l'argent public, comme ça, pas directement, professeur d'université qui se pose des questions de ce genre.
C'est vrai.
Pour être tout à fait honnête, je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas vraiment de recette magique. Je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu immodeste, et ça constitue l'introduction de ce texte, Cabinet de curiosité sociale, c'est que je ne connais pas le processus. Je pense qu'il faut regarder le monde de façon un peu décalée. J'utilise le terme de deuil sauvage qu'utilisait André Breton, n'est-ce pas, pour voir un peu entre la réalité.
Mais deuil, hein, l'œil, hein, pas le deuil. Hein.
Absolument, pas le deuil. On en parlera peut-être dans l'émission d'ailleurs, mais là pour l'instant on parle deuil. Et donc c'est peut-être avec un peu d'humour et un peu de tendresse, regarder le monde et surtout se poser des questions effectivement saugrenues qui ne viennent pas habituellement à l'esprit, parce qu'en fait le monde est peuplé de mystères. C'est ça ma conclusion.
Que vous essayez de percer donc avec votre œil, votre prisme. Si on essayait de comprendre comment vous analysez les choses, quel est votre prisme, vous partez d'un élément du quotidien. Parfois, vous pouvez partir d'une citation que vous avez entendue dans les médias, ça peut arriver aussi. Il y a ce qu'on appelle du name-dropping, des choses vues ou entendues. De quoi vous partez et comment vous creusez? Quelle est la manière d'analyser de Gérald Bronner?
En fait, je pars de mon propre étonnement. Je suis mon premier laboratoire. Il y a des choses que je ne comprends pas ou qui me donnent envie de rire. Et souvent, je me suis aperçu, et c'est comme ça que je fonctionne, que la folie du monde, elle s'explique assez bien par un amoncellement de raisons. En fait, je pars de ce principe que les individus en général, il y a des idiots, il y a des méchants, ça existe. Mais indépendamment de ça, je trouve que c'est pas un bon éclairage pour le monde. En fait, les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. Et une partie de mon travail de sociologue, c'est d'essayer de reconstruire leur univers mental, qui n'est pas le mien, et donc qui me paraît exotique dans un premier temps, pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, et essayer de l'expliquer à mes contemporains.
Vous assumez une certaine subjectivité. Est-ce qu'on peut, par exemple, lire vos chroniques en se disant « Ah, je vais le lire parce que là, je pense que je serais pas d'accord avec lui ». Il y a ce jeu intellectuel-là.
Oui, on a le droit. On a le droit d'abord de pas être d'accord avec moi. Il y a beaucoup de gens, mais prenez votre ticket dans la file d'attente. Ceci dit, voilà, ce sont des chroniques qui sont dans la presse, qui sont là pour édifier l'esprit, comme un cabinet de curiosité, de l'époque, hein, c'est-à-dire de la Renaissance.
Alors justement,
mais ça
n'a
pas prétention à être science, hein, ces chroniques. Elles se fondent souvent sur des articles scientifiques, généralement. En fait, en lisant un article scientifique que j'essaye d'appliquer au monde quotidien, que je vois les clés qui sont données dans cet article, mais ça n'a pas prétention à être science. Par contre, lorsque vous dites que je revendique ma subjectivité, certainement dans mes chroniques, mais j'appelle quand même ma discipline en particulier, la sociologie, oui, et les sciences en général, à faire preuve de méthode, c'est-à-dire à mettre autant que possible, même si c'est un peu utopique, sa propre subjectivité, en particulier ses compulsions idéologiques, etc. J'essaye d'être un rationaliste dans un monde de fous.
C'est exactement comme ça que fait Charline dans ses chroniques. Vraiment, elle essaye de mettre l'idéologie de côté.
Ah oui. Elle n'y arrive pas, mais elle essaye.
Je vous comprends complètement. Ce que vous voulez transmettre aussi, c'est un peu d'outils d'autodéfense intellectuelle ou pas ?
Oui, parce que notre cerveau est absolument formidable, magnifique, l'outil le plus complexe de l'univers connu, 1 000 000 000 000 de connexions, donc entendu, mais il déconne systématiquement dans certaines circonstances. Et nous sommes là, nous qui étudions les rapports, en fait j'étudie beaucoup le rapport entre le cerveau qui est socialisé, c'est-à-dire dans un monde social, les deux m'intéressent, le monde social mais aussi quelques invariants mentaux en quelque sorte, et armé de ces invariants mentaux, je peux en effet éclairer ou proposer un éclairage sur des erreurs systématiques de la part de mes contemporains, mais de moi-même surtout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis mon premier laboratoire. J'ai été très croyant quand j'étais adolescent. Et donc, c'est probablement pour ça que je suis allé là. Je sais qu'on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même. Et donc, même si quelquefois, le fait de vouloir donner la leçon comme ça rationaliste, ça donne une impression d'arrogance, en réalité, je suis très humble par rapport aux objets que je regarde.
Donc, vous êtes un spécialiste des croyances, et donc aussi de l'esprit critique, finalement. Il y a un ouvrage qui sort auquel vous avez collaboré, c'est ça ?
J'ai collaboré, oui, voilà. Tout à fait.
Qui s'appelle « Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique » sous la direction de Nicolas Gauvrit et Sylvain Delouvet.
Excellent livre.
Qui qui est déjà sorti parce que je l'ai en main. C'est aussi au PUF.
En effet. C'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas.
Gérald Bronner, donc sociologue, spécialiste des croyances collectives. Vous êtes professeur à l'université Paris Diderot. Vous donnez des cours de sociologie cognitive des enjeux énergétiques aussi, notamment.
Entre autres.
Membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie des technologies et de l'Institut universitaire de France.
Chic, hein. Presque
ça
comme
claque. Allez, les croyances. Il s'agit du Père Noël.
Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois. La nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois. Dans la cheminée y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras. Ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la
Allez, viens donc Jean Balthazar, écoutez France Inter, par Jupiter, c'était Jacques Dutronc bien entendu. Gérald Bronner est en notre compagnie, le sociologue spécialiste des croyances collectives et qui publie son cabinet de curiosité sociale aux presses universitaires de France. Alex Vizorek pour entourer Gérald Bronner.
Eh bien nous avons Hippolyte Girardot qui en parlera, Guillaume Meurice qui est allé parler antisémitisme sur les marchés, c'est sympa. Et Rukia Tawedraou qui va faire une très bonne chronique puisqu'elle est suivie par le meilleur média de France, comme l'appelle Martin Bouygues. TF1.
Ah, c'est vrai, il y aura bientôt un sujet du côté du 20h de ce Rukia Tawedraou.
C'est pour ça que j'essaie d'un peu faire mousser.
À charge.
A priori, à charge.
Sort à tout.
Allez, 17h20 sur France Inter, le moment de l'information.
Vous avez remarqué que j'essaie de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime.
Taisez-vous et écoutez pour une fois.
Le journal de presque 17h17.
Je vous écoute.
Et on commence par les titres.
Alexandre Benalla a passé sa première nuit en prison.
Oui, jusque-là, le feuilleton Benalla était déjà super, mais si en plus il s'était fait tatouer le plan de la prison de la santé sur tout le corps, ça deviendrait vraiment génial.
Emmanuel Macron a rendu hommage à Karl Lagerfeld, qui était, je cite Emmanuel Macron, une icône qui a contribué à définir le style et l'élégance à la française.
Et on comprend donc mieux la politique sociale de Macron. En fait, pour lui, le style à la française, c'est des gens hyper maigres parce qu'ils mangent pas beaucoup.
Et des brèves,
et on peut arrêter les brèves, mais pas Alex. On peut arrêter Alexandre Benalla, mais pas les brèves. Ouais. Vous voyez.
Non,
mais
quelque
part. Est-ce qu'il y aurait une envie de ma part d'arrêter les brèves?
Non, vous êtes triste.
Non, pas que de votre part. À mon avis, Alex.
Et donc, c'est la surprise du jour.
Alexandre Benalla a donc passé sa première nuit en prison.
Oui, et j'attends de connaître la suite, parce que vu les passe-droits du bonhomme, il serait pas impossible qu'il ait passé la nuit dans le bureau du directeur de la prison à regarder Netflix.
BFM a interrogé son avocate sur le sujet.
Je suis en colère parce que Alexandre Benalla n'a rien à faire en prison. Alexandre Benalla a 27 ans. Il a un bébé de 6 mois.
Mais voilà, pas mal comme explication. Donc si avoir un bébé de 6 mois peut t'empêcher d'aller en prison, je sens que Nicolas Sarkozy va vouloir remettre le couvert avec Carla.
Allez, autre information, selon l'Obs.
Selon l'Obs, une semaine avant la photo montrant le montrant avec une arme à la main, avec une serveuse dans un restaurant, Alexandre Benalla aurait dépensé 1 305 € dans une armurerie.
Et quand il a été interrogé par les juges sur le selfie, il avait affirmé que l'arme, c'était un pistolet à eau.
Allez, donc c'est un scandale.
Bah oui, qu'il ait menti comme ça de façon éhontée devant les juges.
Non, d'avoir payé 1300 balles, un pistolet à eau. J'ai dit, les commerçants sont d'une malhonnêteté.
C'est fou. Politique française à présent. Bernard Cazeneuve aurait refusé un siège au Conseil constitutionnel.
Et oui, à 55 ans, il a jugé qu'il était peut-être trop tôt pour être placé en maison de retraite.
Un gilet jaune a été condamné pour avoir jeté des patates sur les gendarmes.
Eh oui, mais c'est hyper bon le poulet aux patates.
Elle est excellente, Alex.
Oui, elle est gratinée.
Formidable, formidable. C'est international.
Impressionnant.
La Russie, de maîtrise. Oui, la Russie va déployer des missiles capable d'atteindre des centres de décision ennemis.
Ah, il faudrait peut-être en profiter pour dire à la Russie que tout se décide en France du côté de chez Cyril Hanouna. Mmh.
Consommation d'alcool en France toujours. Une étude révèle que plus on vieillit, plus on boit au quotidien.
Et oui, ça expliquerait pourquoi Bouteflika est dans cet état. En fait, il n'est pas mort. En fait, il est bourré.
Allez, une page média et venons-en à un conflit interne qui concerne France Inter.
Concerne France Inter et concerne nous particulièrement, Charline et moi. Scandale qui a démarré dans le jeu des 1000 euros. Ils étaient à Cherbourg ce midi. Et la question était la suivante.
Comment se dit et s'écrit le verbe ancien « ouïr » quand il est conjugué à la deuxième personne du pluriel de l'impératif au présent ?
Pas une question facile, évidemment. Ouais, et les deux candidats, c'était des jeunes, c'est une spéciale jeune, n'étaient pas voilà, hyper balèzes et ont essayé, quoi.
Huit.
Ah, huit. Impératif, hein. Huit.
Oui.
Huit. Alors, ça, c'est les Belges qui disent huit.
Tout le monde a rigolé, Cherbourg, Nicolas Scoufflet. C'est de la belgophobie, mon petit pote. Alors, j'appelle à manifester ce soir.
Ça, c'était un collègue que j'aimais vraiment beaucoup. Mais... Bon, c'est quoi la bonne réponse alors?
C'est Oyer. Oyer, à 18h, place de la République.
En effet, oui.
Contre la belgophobie.
Tout à fait. Allez, des brèves.
Allez, deux brèves. Une tortue géante que l'on pensait éteinte a été découverte aux Galapagos. Plutôt une bonne nouvelle. Donc, Olivier Faure devrait peut-être aller faire un tour aux Galapagos. Il pourrait peut-être retrouver des électeurs du Parti Socialiste.
Allez, la dernière.
Royaume-Uni, enceinte sans le savoir, une jeune fille dans le coma se réveille avec un enfant. La belle au bois dormant, j'ai l'impression qu'elle est tombée sur un prince charmant qui avait pensé autre chose qu'à l'embrasser.
Et merci Alex Vizorek. 17h24 sur France Inter en compagnie du sociologue Gérald Brunner.
Nous écoute, je peux éditer moi tout ce qui est journal, brève.
C'est vrai que dans le cabinet de curiosité sociale, je pense que les brèves, il y a pas mal de liens avec ça. Gérald Brunner. Alors, on va aborder ce premier sujet. Donald Trump a dit à la France, à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, reprenez vos combattants de l'État islamique que nous avons capturés en Syrie et traduisez-les en justice. Bon, très bien. Et donc se pose en effet la question du retour des djihadistes français. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les juge comment ? On les met où ? Allez, tout le monde, on lève les bras. Les To Be Free, bien sûr.
On aime bien.
Alors Gérald Brunner.
On n'avait pas vu la portée géopolitique.
Je suis en train d'interviewer Gérald Brunner avec les To Be Free et parler de radicalisation. Donc il y a une espèce de camoulox là.
Comme ça, la première fois que je venais, j'ai pas fait les mouvements. Mais...
Le cœur y était.
Le cœur y était.
Gérald Brunner. Alors vous avez quelle est la part que vous avez pris dans les centres de déradicalisation? Vous avez supervisé, vous êtes intéressé. Je pense qu'il y a un ouvrage qui va paraître bientôt.
Oui, et j'en parlerai donc beaucoup plus. Je ne veux pas trop spoiler, mais pourquoi ne pas répondre à votre question? Je blague. Oui, je suis intervenu. Non seulement j'ai conçu une partie d'un programme, non pas de déradicalisation, j'aime pas du tout ce terme, mais de prise de distance, simplement avec l'idée qu'on je ne suis pas là, moi, pour lutter contre les croyances des individus. On croit en ce qu'on veut. Si vous croyez vraiment qu'un homme peut marcher sur l'eau, etc., c'est votre problème, ou qu'un homme avec une barbe vous apporte des cadeaux le jour de Noël. J'espère que les enfants n'écoutent pas.
Ou que Hippolyte peut relancer sa carrière. Il y a plein de croyances
Il y a plein de croyances.
C'est gratuit. C'était purement gratuit. Et
donc, l'idée, c'était donc pas de contrer leurs croyances, mais plutôt de réfléchir avec eux au processus intellectuel qui peuvent les conduire à des croyances. alliance radicale. C'était un peu ça le processus, et c'est ce que j'y ai fait, tout simplement.
Alors oui, vous n'aimez pas ce terme de déradicalisation, mais qu'est-ce qu'on fait de ces djihadistes français s'ils reviennent? Donc la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, explique pour l'instant qu'ils regardent au cas par cas, qu'évidemment il est question de les traduire en justice. Il peut être, dans certains cas, question de les traduire en justice peut-être en Irak, là où ils ont commis les faits. Voilà, qu'est-ce vous, avec votre regard de sociologue et en travaillant sur cette question de la déradicalisation, qu'est-ce qu'on fait avec eux quand ils reviennent? Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation dans les prisons, etc.?
Oui, ben d'abord, il faut rappeler une chose. Il faut bien séparer la situation de l'Irak et de la Syrie, du Kurdistan syrien, en fait, parce que l'Irak, le problème ne se pose pas. Je crois qu'ils vont rester. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne suis pas spécialiste de cette question. Oui. En revanche, en effet, il ne faut pas oublier que dans les 120 djihadistes, je vais mettre des guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, qui sont dans les geôles du Kurdistan et qui posent problème parce qu'effectivement, il va y avoir une légère perturbation avec le retrait des troupes américaines. On peut conjecturer assez rationnellement dans ce sens-là. Mmh. Et donc, aussi bien par la Turquie ou tout simplement par les troupes de Bachar el-Assad, il est possible que certains prisonniers, comme ça, s'évadent dans la nature et donc deviennent incontrôlables, puis ils reviennent sur notre territoire. Il est tout à fait légitime, à mon avis, de se poser cette question. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les 120 personnes, je crois qu'il y a un grand nombre d'enfants. Mmh. Et c'est ça la question. Enfin, pour moi, la question la plus difficile, c'est celle-ci, puisque ces enfants ont pu être, par exemple, scolarisés en comptant des grenades, voyez le genre, ou voir des décapitations, ou voir pratiquer eux-mêmes des simulations de décapitation, voire... Donc, on a toute une série de situations, et on ne voit pas que la France laisse des enfants en bas âge, voire des bébés qui ne sont pas sevrés, dans certains cas, comme ça, sur des terres lointaines. Je pense que... C'est même pas une question de devoir moral, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou mal. Bien entendu qu'on peut avoir un point de vue moral, mais je vais mettre à distance la compulsion morale sur ces questions. Disons que d'un point de vue conséquentialiste, du point de vue des conséquences, il est plus sécure, si je puis utiliser ce terme, de les faire venir. C'est-à-dire qu'on contrôle notre destin, en quelque sorte. Ouais. Donc je pense que c'est ça, c'est contrôler notre destin. Et ensuite, alors là, c'est un véritable casse-tête de ce qu'il faut faire exactement. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, qu'on séparait les parents des enfants. Je pense que c'est pas une bonne idée. On maintient les fratries entre eux, mais là, les enfants souffrent, les bébés non sevrés, ça pose des problèmes. On les sépare des mamans. Je crois pas. Je pense que c'est un bloc. Si on veut penser à la question de la prise de distance, par exemple, il est peut-être pas totalement stupide d'imaginer que la maman, parce qu'elle a vu des choses, peut-être qu'elle a été extrêmement déçue, elle peut servir peut-être de stimulation de la pensée critique, justement, chez son enfant, avec beaucoup plus de crédit que moi, je ne pourrais le faire, ou n'importe quel éducateur, etc. Donc il faut penser les choses. On a raison d'être indigné sur ces questions. Ce sont des gens qui ont probablement, en toute probabilité, applaudi aux massacres qui ont eu lieu en France. Donc il n'est pas question de dire, de brandir des arguments fondés seulement sur le bien et le mal.
De leur dérouler le tapis rouge.
Mais là, encore une fois, sur ce sujet, comme sur tous les autres, je pense qu'il faut être très rationnel, tout simplement.
Très bien. Vous publiez d'ailleurs le mois prochain Déchéance de rationalité. Vous racontez donc votre intervention dans un centre de déradicalisation et votre rencontre avec Jean-Marc Rouillant.
Oui.
Rappelons, après 26 ans passés en prison pour des assassinats dans les années 80, le cofondateur du groupe terroriste est en tournée permanente, nous dit Le Monde, des librairies anarchistes en ZAD. On se l'arrache, nous raconte le quotidien du soir. Et donc toutes ces questions de radicalité, de rationalité, etc.
Et la folie du monde contemporain, tout simplement. Ouais.
Gérald Bronner.
Je veux rien dire, mais la librairie des puffs me suit sur Twitter à l'instant.
Ils sont pour un
gros coup à jouer sur les brèves.
C'est vrai.
On peut faire des coffrets. Les analyses sérieuses de Gérald, les conneries de Liso.
Petit coffret
avec
Noël,
ce fameux livre, le cabinet de curiosité sociale de Gérald Bronner, paru au PUF. Donc. Hippolyte Girardot, oui, ça c'est un ouvrage que vous avez lu très tôt parce que vous adorez.
Oui, je trouve ça toujours intéressant. Cette façon de cataloguer le monde, d'essayer de le hiérarchiser, de nomenclaturer. Et donc je suis enchanté d'être à côté de vous. Voilà, parce que moi-même, en amateur, j'essaie...
Ça commence très 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 bien. On adore ça.
Vous allez voir, parce que vous rigolez à l'avance. Ce qui corrobore complètement ma théorie. Vous ne faites que me savonner le tapis rouge.
Je connais des gens au PUF.
Maintenant, écoutez-moi bien.
Les enfants,
moi-même,
du calme.
Oui, du calme. Les enfants, d'ailleurs.
Voilà. Oncle Hippolyte va parler.
Moi-même, j'essaie, mais en amateur, de chroniquer le catalogue de mon propre cabinet de curiosité dans cette émission. Et comme vous l'avez vu, je me retrouve souvent seul, à la marge, caricaturé en professeur tournesol du billet radiophonique. Chacun sa croix. Alors que votre idée, moi j'aime beaucoup, vous citez André Breton, je comprends très bien, votre idée de poser un regard cru sur le réel, de secouer le cocotier de l'évidence et voir ce qu'il en tombe. Et c'est pour ça que vous posez des questions idiotes. Par exemple, pourquoi la blouse blanche influence-t-elle autant notre perception de celui qui la porte? Parce qu'elle est associée au sérieux du médecin et aussi, je dois dire, à la peur. On sait par exemple que le rythme cardiaque d'un malade augmente immédiatement en présence d'un médecin arrivant dans une chambre en blouse blanche, alors qu'il reste constant s'il arrive, par exemple, en tenue de golf. Notre question, vachement sympa, c'est pourquoi les chantiers sont-ils toujours en retard? Eh bien, parce qu'on sous-estime largement tous les obstacles qui se présentent pour achever l'œuvre complète. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils vont disparaître par miracle. On croit au miracle, donc. Et alors, une question que j'adore, évidemment, qui est pourquoi les jeux de balles se font-ils quasiment tous avec des sphères? Eh bien, parce que la sphère a une trajectoire prédictive, prévisible, et qu'on peut anticiper son point d'arrivée. À la différence de ce fameux ballon ovale qui fait porte-nawak, comme vous le savez. Et d'ailleurs, au rugby, la règle, c'est de ne jamais mettre ce ballon au sol. Ovale et rond, je trouve que cette dichotomie fonctionne assez bien. Par exemple, ici, dans cette émission, ici, là, autour de moi, autour de cette table ronde, il y a surtout du rond et très peu d'ovale. Hein, on sait d'emblée à peu près où on va retomber. Par exemple, Alex fait des brefs, par exemple, d'accord? Et Guillaume assassine l'omnivore anti-étranger qui traîne dans les colloques de cadres ou les marchés du 16e arrondissement. Oui, Charline pose des questions et des réponses. Et Rukyata va nous parler de l'Afrique. Et moi, je vais vous parler de mon cerveau en mode Twitch. Voilà. Tout ça est très sphérique. Hein, et on voit très bien où la balle arrive. La sphère, c'est la métaphore de l'algorithme de l'agrégation dont nous sommes si friands, nous, les êtres humains. Et c'est à ça que je pensais quand j'ai entendu l'autre matin parler de cette fameux algorithme qui allait analyser les cahiers de doléances, vous savez, des centaines de milliers de contributions au vrai débat national suite au gilet jaunisme, dont nous parlera Rukyata plus tard. Eh bien, il s'avère que l'intelligence artificielle qu'ils sont obligés de mettre en place est absolument incapable, dans le temps imparti en tout cas, d'analyser suffisamment les contributions pour ne pas passer à côté de la proposition originale qui serait absolument géniale. Bien au contraire, on va se retrouver avec un faisceau de propositions plus ou moins similaires. On suppose donc avec raison, pas les complotistes mais les gens un tout petit peu en train de penser, hein, ceux qui sont chez PUF comme Alex, on suppose donc avec raison que le gouvernement contrôlera ainsi la plupart des réponses aux questions. Alors, je vous le dis tout de suite, les contributions sont en open source, donc accessibles à tous. Donc s'il y a des courageux, des dingues, on peut espérer que des citoyens fouillent dans le grand sac et en sortent des propositions beaucoup plus ovales que sphériques. Sinon, moi je prédis que la balle risque bien de rebondir suffisamment dans la tronche du gouvernement de manière assez prévisible.
C'est Hippolyte.
La fin de la chronique, là. Bon, bravo. Bravo.
Merci, Hippolyte Girardot. C'était votre lecture du cabinet de curiosité sociale de Gérald Bronner, paru au PUF. On est ensemble jusqu'à 18h. À venir, Guillaume Meurice, Rukyata Ouédraogo. Et en attendant, Song for Winners, Nick Waterhouse. Oui, bah c'est la fin. Alex Vizorek, remettez votre
voilà,
casque.
Oui, je suis là.
Il se passe des choses pendant les 10.
Sur France Inter. Non, on écoutait Nick Waterhouse, je vous signale.
Oui, oui.
Et Gérald Bronner est en notre compagnie, le sociologue qui est spécialiste des croyances collectives. Ce sera justement l'objet de notre prochain sujet. Mais en attendant, il y a un moment. C'est un virage délicat, hein, parce qu'il a choisi son sujet aujourd'hui, Guillaume Meurice.
Oui, bah bonne ambiance en France en ce moment. Bonne ambiance. Il y a des Banksy version Goebbels qui taquent des cimetières et des portraits de Simone Veil. Pour lutter contre l'antisémitisme, LCI a invité Éric Zemmour. Ah, le mec qui rêve. Élite Pétain. C'est toujours une bonne idée. Bien joué, les gars. Alors, c'est dommage que Forisson soit mort. Parce qu'il y avait une place à la météo. Même s'il aurait nié les normales saisonnières. Donc, ils sont arrêtés dans la merde. Mais bon, la question se pose plus. Puis, d'un autre côté, t'as plein de gens qui se découvrent une carrière de chasseur de nazis. C'est vrai que t'as peur. Maintenant, des fois, tu critiques Netanyahou. Direct, t'es Himmler, quoi. Tu refuses un falafel. Tu es le docteur Mengele. Donc, faut faire très attention. Mais sinon, c'est chouette. Ça se passe bien. C'est calme. D'ailleurs, je suis allé voir les Français ce matin pour bien mesurer la sérénité de la société. Pour être tout à fait cool. D'ailleurs, commençons avec une blague.
Pourquoi les Juifs, ils ont des gros nez ?
Je sais pas.
L'air est gratuit.
Ah, parce que l'air est gratuit.
Voilà.
Voilà, petite blague antisémite. Pour commencer, je me suis dit, ça détendrait bien tout le monde. Parce que je vous rappelle que Michel Leeb a la Légion d'honneur. Donc l'humour raciste en France, c'est quand même une tradition. Même si, pas besoin d'humour, hein, puisque je vous le dis, tout le monde est quand même bien détendu sur le sujet.
Je crois surtout que le gouvernement est responsable, là. Voilà.
Le gouvernement est responsable de l'antisémitisme ?
Ah, évidemment. Ce sont eux les premiers racistes. Et ils foutent le caca partout, voilà.
Voilà, ambiance sérénité. Voilà. Sérénité et gastro, pour être tout à fait précis, avec un gouvernement qui fout le caca partout. Alors, pour l'analyse, on est quand même moins proche d'Albert Camus que de Tchoupi sur le pot, mais il y a une part de vérité dedans. Alors, du gouvernement, il en est question avec cet autre monsieur avec qui j'ai parlé antisémitisme.
Non, il n'y a pas d'antisémitisme, c'est pas, j'y crois pas, là. Là, c'est le gouvernement qui fait gonfler. C'est pour faire diversion. Et en plus, je... Je suis pour lui, du reste, c'est très bien, je le trouve très bien, je le trouve à tout point de vue. Il y a un type qui lui a dit sale juif et tout, mais ça, c'est courant.
Oui, c'est, je veux dire, c'est quand même normal, c'est classique, il n'y a pas d'antisémitisme, des gens qui traitent d'autres de sale juif. Classique, hein, on est bien, on est sur quelque chose de normal, une démocratie qui va bien, hein, n'est-ce pas?
Pour moi, il n'y a pas un antisémitisme énorme, c'est pas. C'est... Il y a un anti-arabe, il y a un anti-juif, il y a un anti-noir. Ouais. C'est... Mais modéré, hein, attention, hein, très, très, très modéré. Voilà, donc...
Il y a un antisémitisme modéré.
Voilà, en France, il n'y a pas d'antisémitisme déclaré. Voilà,
il n'y a pas l'amicale des nazis avec un tampon de la préfecture. On est quand même sur quelque chose de cool. Alors ça... Ça, c'était un homme d'expérience, comme on dit, mais j'ai recroisé un jeune que j'avais déjà interrogé il y a quelques temps, quand j'avais fait une chronique sur les symboles de la République. Je m'en souviens parce qu'il m'avait dit que la Marseillaise a été composée en 14-18. Donc je me suis dit, tout ce qui est histoire et devoir de mémoire, a priori, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé de la manifestation d'hier ?
En manifestant, je trouve, moi, ça attise la haine, je suis désolé. Hein.
Il faut pas manifester contre l'antisémitisme,
non,
parce que ça attise la haine.
Voilà, dès qu'il y a un truc qui se passe, ça y est, tout manifeste. Faut arrêter, hein.
Faut faire quoi alors ?
Eh ben, faut rien faire. La parole est d'argent, le silence est d'or, voilà, c'est tout. Pour un petit truc comme ça, c'était pas la peine de faire une manifestation.
Un petit truc de type profanation de cimetière juif, on va pas commencer à faire les chochottes, les mecs. Hein, au moins, il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire. Hein, je dirais, faut voir le bon côté des choses et ils savent dessiner. Voilà, et si on positivait quand même ? Donc, on se tait, la parole est d'argent, le silence est d'or. Non, je ne ferai pas une deuxième blague antisémite basée sur le pognon. De toute façon, les juifs, ils font quoi ?
Ils travaillent 15 heures par jour, c'est normal qu'il ait de l'argent.
Les juifs ?
Mais ils ont raison, de toute façon. On est en train de se faire bouffer par les Asiatiques, ils la jettent partout, de toute façon. Faut rester dans le raisonnable.
Selon vous, faut pas se méfier des juifs, faut se méfier des Chinois.
C'est pas pareil. Hein.
Non, c'est alors attention, voilà, j'attire votre attention là-dessus, c'est pas pareil. Faites gaffe si vous voulez être raciste, voilà, choisissez qui détester. Ça c'est vraiment un truc perso. Sinon c'est le bordel. Si vous n'y arrivez pas, eh ben vous envoyez Le Pen au 8-12-12. Normalement ça marche bien. Et si vous tombez sur un Chinois juif, démerdez-vous. À un moment donné, ça va. De toute façon, l'antisémitisme, il vient d'où ?
Ce qu'on a vu comme acte antisémite meurtrier, ça venait pas de l'extrême droite, ça venait de l'extrême gauche.
Ça venait de l'extrême gauche, selon vous ?
Islamo-gauchiste, quoi. Hein.
Merde, c'est nous, ça ?
Ouais.
Oh putain, c'est nous, on nous traite de ça à longueur de journée. Putain, je suis sûr qu'Aboubacar al-Baghdadi, il adore les films de Girardot. Oh putain, on a bien retrouvé des cassettes d'Enrico Macias chez Ben Laden. Hippolyte, ses chroniques, parfois, il y a un côté mendiant de l'amour. Ah, on va pas se mentir. Bon, avant d'avoir des emmerdes, concluons. Concluons quand même avec un peu d'humour juif.
Vous savez quelle est la station de métro des mères juives ?
Non.
C'est Monge, mon fils.
Voilà, là on est dans le jeu de mots, là on est dans le consensus, on est bien. Humour qui rassemble les peuples et les religions. Rappelons d'ailleurs, pour conclure quand même, que jusqu'à preuve du contraire, je parle sous le contrôle de Gérald, Dieu n'existe pas du tout, hein, et que l'espèce humaine a beau être la plus con de la biosphère, elle est indivisible. Sur ce, shalom.
Guillaume Ries, dites-moi, on va rassurer tout de suite nos auditeurs. Aujourd'hui, vous avez mis beaucoup de temps pour trouver ces gens qui dérapent.
Tout à fait, l'antisémite est complexé, j'ai l'impression. Il vit ça à l'époque,
donc j'ai pas mal vadrouillé. On entend un condensé, mais c'est vrai que vers 13h, j'étais inquiète de ne pas voir rentrer Guillaume qui arrive plus tôt d'habitude. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris un jeton.
Et donc demain, pour gagner un peu de temps, il va faire sur l'islam.
Voilà, non, mais l'islam, ça va beaucoup plus vite.
Heureusement, voilà, on tenait à rassurer.
Vous voulez peut-être réagir,
Gérald Bronner, à ce que vous venez d'entendre?
Non, Charline, j'approuve votre remarque, parce qu'effectivement, on pourrait prendre pour un échantillon représentatif ces micro-trottoirs.
Vous me prenez pour un sociologue? Non, ça me fait plaisir.
Je teste. J'ai entendu que vous vouliez poursuivre vos études tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire à Paris 7.
Ces gens sont bien là avec leurs propos dans nos rues, mais heureusement, il a fallu en trouver. Vous avez particulièrement galéré aujourd'hui. Ça nous rassure rien qu'un tout petit peu. À 17h43 sur France Inter, avant d'écouter Rukyata Ouédraogo, Gérald Bronner en notre compagnie, sociologue spécialiste des croyances collectives, justement. Nos élus nous disent qu'il faut continuer à croire en la politique. Le verbe croire est pourtant celui qui est généralement désigné pour la religion. Et d'ailleurs, pour le plus grand bonheur des populistes, les Français croient de moins en moins dans la politique. Et pourtant, on y a cru, bref.
Regarde, c'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur.
Merci Sidi.
Jean Dujardin dans OSS 117 de Michel Hazanavicius. Alors, vous travaillez sur les croyances. Comment est-ce que vous analysez cette locution qu'on entend très souvent de dire « je crois en la politique » ou « nous devons croire en la politique » ou « je ne crois plus en la politique »
C'est pas totalement déraisonnable. D'abord, concernant les programmes politiques, ce que l'on nous promet dans les campagnes, etc., qui portent sur des solutions apportées à des problèmes comme le chômage, par exemple, on voit bien que c'est des problèmes qui sont relativement insolubles. Et donc, il y a une dimension rationnelle dans les solutions qui sont proposées, mais il y a aussi une dimension de pari. Et donc, souvent, ce qui prétend relever du vrai et du faux relève en réalité du bien et du mal, parce qu'il y a des tas de solutions que l'on n'a pas. Et comme on ne sait pas répondre du point de vue du vrai et du faux, eh bien, on répond un peu du bien et du mal. Donc, je choisis l'option qui me paraît bonne plutôt que l'option qui me paraît vraie, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Et je pense que le discours politique, a effectivement vocation à se substituer à un certain nombre d'administrations, d'ingénierie sociale, quand il n'est pas possible d'approcher les questions de cet ordre. Autre question importante, c'est la confiance qu'on a dans le politique, et c'est surtout de ça dont on parle en ce moment, puisque sondage après sondage, étude après étude, notamment celle du Cevipof qui vient de paraître il n'y a pas longtemps, montre qu'on atteint des records historiques de méfiance, de défiance vis-à-vis de l'exercice du politique, et ça je pense c'est quand même assez inquiétant effectivement.
Dans votre ouvrage, dans le cabinet de curiosité sociale, il y a une chronique qui s'intitule « Pourquoi Mitterrand voyait-il Elisabeth Tessier ?»
Oui.
Et c'est vrai qu'on est troublé qu'un président de la République croit en l'art divinatoire.
C'est une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut croire des choses folles sans être fou soi-même. On peut croire des choses assez bêtes comme l'astrologie, excusez-moi, et sans être bête soi-même. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on le sait, François Mitterrand avait des craintes métaphysiques très fortes. Et puis surtout, quand on exerce un pouvoir, et pour la raison que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une grande incertitude dans les conséquences des décisions qu'on va prendre, eh bien, l'astrologie, la voyance, tous ces trucs-là sont des réducteurs d'incertitude. En fait, ce sont des formes de prothèses mentales qui vous aident à essayer d'en savoir plus quand personne ne peut vous dire ce qu'il faut en savoir. Et donc, il n'est pas étonnant qu'un certain nombre de grands décideurs, dont les politiques, consultent souvent les astrologues.
Même eux se raccrochent à ça.
Que personne ne dit qu'il est superstitieux, par exemple. Mais Charline, Guillaume, les autres, Alex, autour de la table, quand on est confronté à une situation d'incertitude très forte, vous allez faire un test, par exemple, pour une maladie ou je sais pas quoi, la tentation est quand même assez forte, discrètement, de toucher un peu du bois, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Si le feu passe au vert quand je passe,
exactement.
C'est que c'est
bon. On est tous un peu comme ça.
Est-ce qu'il n'y avait pas un peu avec Elisabeth Tessier le fait qu'elle lisait l'avenir dans les boules?
Oui, il y a une dimension de ce genre, effectivement.
C'est bien de faire rebaisser un peu le niveau de l'émission. C'est ma mission.
Non, on a évoqué Hanouna tout à l'heure, là, on y est presque.
François Mitterrand qui croyait aux forces de l'esprit, comme quoi la politique. Croire, etc. C'est toute une relation vraiment passionnante. Hippolyte,
c'est assez ancien que les politiques. Non, c'est pas. sous l'Empire romain que les politiques eux-mêmes consultaient des...
Ah ben les Romains, d'ailleurs pas que les politiques, les Romains tiraient des dés sans cesse pour n'importe quoi, le moindre craquement d'une chaise signifiait quelque chose, etc. C'est d'ailleurs une façon de voir la décadence de l'Empire romain qui est très intéressante, c'est-à-dire l'impossibilité de réduire les incertitudes. Plus il y a une multiplication de pseudo-sciences, de tentatives, de serrer l'incertitude, plus c'est un signe d'inquiétude du temps présent.
Et que dire du président du Burkina Faso qui sans doute lit sa politique dans les coris, dans les coquillages blancs.
Parce que là, ça doit y aller. Hein.
Ah, pas mal en ce moment-là. À 17h47, nous avons le plaisir de retrouver Rukyata Ouédraogo.
Alors, on me demande souvent s'il y a des gilets jaunes au Burkina. Récemment, j'étais au Burkina et je dois bien reconnaître que je n'en ai pas vu. Mais bon, pour en avoir le cœur net, j'ai été posé la question à... Devinez qui ?
Tonton Théophrase !
Comment vous savez ça ?
Vous
êtes trop fort ! Dites-moi, monsieur Brunner, vous le connaissez, mon tonton ?
Non, pas encore.
Ah ben, c'est un collègue à vous. Ah. Bon, d'accord. Vous avez un CV long comme mes deux jambes. Je l'ai lu, hein. Mais celui de mon tonton n'est pas mal non plus. Non seulement tonton est chosologue à l'université de Ouagadougou, spécialiste en mouvements sociaux et en climatisation, mais en plus, il est aussi le sosie officiel de Johnny Hallyday. Hein? Ah. Vous ne faites pas ça. Hein?
Non.
Donc tonton m'a dit, ma fille, allons au dolodrome chez Ernestine pour parler plus tranquillement. Ici, les murs ont des oreilles. Bon, le dolodrome, pour les étourdis qui ne savent pas toujours ce que c'est là où on boit le dolo, la bière de mille.
J'ai compris maintenant. Voilà, on en aura plus sur ce sujet.
C'est un bistrot, quoi. Mais tonton, au dolodrome, il y a aussi des oreilles qui traînent, non? Ma fille, oui, il y a des oreilles qui traînent, mais ces oreilles-là, elles sont tellement imbibées d'alcool qu'on ne risque plus grand-chose. Donc, tonton m'a amené chez Ernestine, la dolotière, et les langues se sont déliées. Tonton a commencé à m'expliquer qu'au Burkina, comme ici, les gens ont aussi de très bonnes raisons d'aller manifester aussi. Et son voisin, le vieux Rasmané, a enchaîné directement. Ah, mais tu as tout à fait raison, Théophraste. Hein. Regarde-moi, j'ai voulu acheter des gilets jaunes pour aller manifester. Mais vous savez combien coûte un gilet jaune ? Avec la retraite qu'on gagne ici? Ah bah, t'as qu'à faire comme moi, hein, dit le vieux Youssef. J'ai pris mon boubou jaune, celui de mon troisième mariage là. Hein? Comment elle s'appelait déjà cette fille là? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle m'a fatiguée. Ah, les femmes avec la jalousie. Bon bref, je suis allée voir Abdul Karim avec mon vieux boubou. Tu connais Abdul Karim? Depuis qu'il ne voit plus, il est devenu tailleur. Hein? Abdul Karim est devenu tailleur? Il arrive à coudre avec ses vieux yeux-là. Oui, Ernestine. Et avec sa maladie de Parkinson, il a plein de trous dans les doigts, mais il fait de très belles broderies. Hein? Et on l'appelle d'ailleurs le Karl Lagerfeld du quartier. Bon, il m'a fait un très joli gilet jaune avec des broderies devant. Et comme ça, je pourrais moi aussi aller casser des vitrines samedi prochain. Et vieux Youssouf. Mais quelle vitrine tu vas aller casser, hein? Ici, on n'a que des persiennes métalliques. Tu vas juste abîmer ton vieux dos et casser ta canne. C'est tout ce que tu vas faire. Ah oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, Marie-Joseph. Et ce qu'il faut faire, c'est aller foutre le feu à l'Assemblée nationale. Comme ça, on va tous se faire entendre. Mais attends, l'Assemblée nationale a été déjà brûlée en 2014. Et elle est toujours en ruine. Non, les gars, ce qu'il faut faire, c'est faire comme les Français. Aller brûler les poubelles sur les Champs-Élysées. Et là, le jeune Marie-Joseph se lève comme s'il avait un crabe dans le caleçon. Vous visualisez un peu, Alex ?
Voilà. C'est un mauvais souvenir.
Je vois bien, moi. Mais où est-ce que tu as vu des poubelles à Ouagadougou ? Hein ? Tu veux aller foutre le feu à quoi ? Et là, Ernestine s'emballe. Et c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de poubelles à Ouagadougou. Et si cette ville-là n'est pas plus sale, c'est parce que nous, les femmes, on se réveille au milieu de la nuit pour aller balayer les rues. Parce que s'il fallait compter sur vous, les hommes... Oh, Ernestine, là n'est pas la question. Hein. On n'est pas là pour faire un débat féministe. Hein. Nous, on est là pour faire la révolution, nous. Tiens, resserre-moi du dolo. La révolution. Regarde-moi ce héros du peuple qui se cache de sa femme pour venir boire du dolo ici. On t'a dit que Thomas Sankara a fait la révolution dans un dolodrome. Paye-moi déjà ce que tu me dois. Bon, bref, au bout de 5 heures de discussion, ne voyant toujours pas l'ombre d'une manif de gilets jaunes à l'horizon, et puisque les jarres d'Ernestine étaient vides, nous avons décidé, tonton Théophraste et moi, de nous rentrer en nous calant l'un sur l'autre pour pouvoir marcher bien droit. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'en 2014, les Burkinabés sont descendus dans la rue et ils sont allés crier sous les fenêtres du président « Compaoré, démission ! Compaoré, démission !» Ils ont tellement foutu le bordel que Compaoré a quitté le pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès le lendemain, les manifestants sont revenus dans la ville pour nettoyer les rues. Ça laisse songer, non ?
Rukyata Ouédraogo, merci beaucoup Rukyata. Et d'ailleurs, est-ce que le jaune n'était pas la couleur de la première dame Chantal Compaoré?
Ah, je ne sais pas.
On va vérifier cette info, mais je pense que oui. Merci Rukyata. On est toujours avec Gérald Bronner, sociologue, spécialiste des croyances collectives et professeur à l'université Paris Diderot. On va parler de Karl Lagerfeld qui nous a quittés et les hommages pleuvent comme si c'était Giscard qui était mort. Alors évidemment, tous les Français connaissent Karl Lagerfeld, créateur populaire parce qu'il allait notamment à la télévision. Mais contrairement à Charles Aznavour, dont on connaît tout par cœur les chansons, par exemple, il y a beaucoup moins nombreux sont les gens qui ont un tailleur Chanel chez eux. Voilà, vous voyez. Karl, c'était le luxe, et vous voyez d'ailleurs ce qu'il déclarait récemment.
C'est incroyable le nombre de petites boutiques où les bonnes femmes vont acheter en étant persuadées qu'elles achètent du 38. Elles achètent du au moins 46 mannequins, c'est-à-dire du gros. J'adore la maigreur, hein. Je trouve que c'est fantastique, la mode est faite pour la maigreur, faut arrêter de raconter n'importe quoi. La mode n'est pas faite pour des énormes patates. Quand tu licencies une top modèle, ça te coûte 1 million, ça te coûte l'équivalent d'une demi-collection ou d'une collection entière. Quand tu vires une petite poupée, tu la jettes à la poubelle et le tour est réglé.
Il aurait pu, presque, dire ça, mais non, ça n'est pas lui, c'est Alex Lutz dans une imitation de Karl Lagerfeld. Tiens, la mode, c'est un objet social qui n'apparaît pas tellement dans votre cabinet de curiosité.
Non, c'est vrai, mais d'autres sociologues s'en sont emparés, comme Guillaume Erner, par exemple, qui a fait un excellent livre sur la sociologie de la mode.
Alors, on se posait cette question, le luxe, c'est pas populaire, c'est pas ce qui rassemble vraiment. Et pourtant, il y a des hommages vraiment partout de Karl Lagerfeld. Est-ce qu'on peut vraiment comparer, se dire, c'est vrai que Charles Aznavour, on a tous des chansons, etc. C'est très démocratique, on partage ces choses-là. Karl Lagerfeld est certes un grand créateur, etc. Mais il y a vraiment une pluie d'hommages où on peut peut-être se sentir un petit peu décalé vis-à-vis de tout ça. Parce que...
Oui, j'aurais été plus à l'aise pour vous parler de Paco Rabanne, par exemple.
Ah, parce qu'il a fait toutes sortes de prédictions
très intéressantes. Et quant à Lagerfeld, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la mode, hein, il suffit de me regarder tout simplement.
On voulait pas en venir là. Vous
avez un petit polo bien ajusté.
Je préfère contrôler ma chute directement. Et donc, en fait, c'est un personnage un peu marque, c'est-à-dire qu'on peut le dessiner en 4-5 traits, et je pense que ça en fait un personnage populaire, parce qu'il est mémorable, il a des traits là qui ont été bien d'ailleurs
fastichés par
Alex.
Il avait sa silhouette sur des canettes d'une marque de soda, par exemple.
Oui, de tout, je crois qu'il a fait toutes sortes de publicités, et moi j'avoue que je connais pas ce monde-là, mais c'est horrible ce que je veux dire, on doit pas critiquer quelqu'un qui vient de mourir, mais je crois que c'est assez vulgaire en fait, finalement. Et je trouve aussi qu'il suffit pas d'être misanthrope pour être intelligent, quoi. Ça va pas de soi. Alors il faisait comme ça des déclarations assez méchantes.
Ah oui, oui.
Mais alors je dois dire aussi pour compenser cela qu'en venant ici, je suis venu en taxi, parce que sinon faut bien pour venir à la maison de radio, faut venir en péniche. Hein. Donc,
non, vous créez de la croissance.
J'ai pris une voiture et le conducteur m'a posé naturellement la question de savoir si j'avais entendu la nouvelle de la mort, parce qu'il lui le connaissait personnellement. Et il m'a dit c'était un homme très gentil, donc je tiens à le dire, voilà. En fait, malgré tout ce que je viens de dire, apparemment c'est un homme très gentil.
Une info de taxi, comme vous savez.
Vous avez des sources, quoi, vraiment.
C'est vrai qu'il a parfois fait des sorties qui sont tout à fait critiquables. Et on s'est amusé à regarder ce qu'avait écrit l'Humanité aujourd'hui. Il y a une page sur Karl Lagerfeld. Je vous lis le début de l'article. On ne saurait dire que le personnage nous était sympathique, qui semblait l'incarnation d'un milieu fermé sur lui-même, au snobisme kitschissime et au bout du compte assez vulgaire. Ce que vous disiez. Son accoutrement sentait l'artifice et la volonté un brin ridicule de se forger un personnage dont le maniérisme outré n'avait que par méprise une prétention à l'élégance. Mais bref, Karl Lagerfeld est mort hier à 85 ans. Rassure, l'article se poursuit avec certaines sorties, mais voilà, comme quoi, c'est vrai que dans cette pluie d'hommages, etc., quand il s'agit du milieu du luxe ou de quelqu'un qui souhaite céder sa fortune à sa chatte, on est en droit de se poser certaines questions, Gérald Bronner. Est-ce qu'on peut vous sortir un peu du cadre, comme même dire le gouvernement, de vos compétences habituelles avec
un
sketch?
On propose un sketch à l'invité, vous semblez surpris et vous avez beaucoup de chance, parce que vous allez jouer votre propre rôle, mais pas n'importe où. En ce moment, le grand débat se déroule dans toute la France, mais aussi dans les prisons. Ça a été important pour le gouvernement que ça puisse avoir lieu là. Vous allez animer un débat dans une prison. Guillaume Charline et moi sommes incarcérés et on va voir ce que ça peut donner.
Bon, on se dépêche de commencer parce que...
Parce que tu dois rentrer chez toi ?
Non, j'avoue, c'est con, j'ai pris perpète. Donc, voilà.
Bonjour à tous et bienvenue dans le grand débat des prisons.
Bonjour.
Alors j'ai fixé les règles tout de suite, pas d'engueulade, pas de bagarre, pas de téléphone portable, hein. Je veux pouvoir voir personne t'exsauter.
Se faire sauter ?
Vous dites quoi, monsieur Abdelslam ?
Non, parce que moi je peux pas me faire exploser en ce moment parce que j'ai un peu mal au dos. Alors, en revanche, je connais du monde, si vous voulez...
J'ai dit textoter, envoyer un SMS quoi. D'accord. Allez, démarrons. Est-ce qu'il y a un thème particulier que vous souhaitez aborder ?
Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'éducation.
Très bien.
Et plus précisément, la politique des crèches.
Des crèches ?
Parce que je me disais, si on mettait des couchettes individuelles dans les crèches, ça nous permettrait d'avoir un peu plus d'intimité. Et...
Vous avez des enfants ?
Non.
Dis-lui, pourquoi t'es là ? Parce
alors, que j'ai quelques problèmes de pédophilie, mais ça va beaucoup mieux maintenant.
Non, mais allô, quoi ? Mais il va nous saouler longtemps, celui-là ?
Dites-moi, là, qu'est-ce que vous faites là, Nabila ? Vous avez quitté les prisons depuis des années ?
Non, mais le mec, parce que c'est un sociopathe, il croit que...
Sociologue.
Ouais, bah c'est pareil.
Et donc, vous voulez ?
Bah moi, je voudrais que le port du couteau soit autorisé en rue.
Ah, attendez.
Quoi ?
On est en duplex avec le Japon, là.
Ah, les petites japonaises.
Hiroshima, ça, c'est de l'attentat. Hein.
Non, mais moi, je connais aussi le Japon. Je suis déjà allé à Bangkok, je te signale.
Allô, monsieur Gon ?
Moshi Moshi, je vous entends.
Vous vouliez débattre.
Vous savez, moi, déjà parlé à quelqu'un, c'est fantastique, c'est énorme.
Donc, que proposez-vous ?
Bah, je me disais, plutôt que rapatrier les quad djihadistes partis en Syrie, vous voulez pas plutôt rapatrier un petit Français perdu au Japon ?
Ah ben, bah, très bonne suggestion, je la soumets aux autres.
Bah écoutez, moi, je suis pas contre, mais je rapatrierais bien les djihadistes, quand même.
Oui, surtout si c'est des familles nombreuses avec les petites...
sinon, l'ISF ?
Oh, je le paie, je le paierai même deux fois, s'il faut.
C'est pas la question, est-ce qu'il faut le supprimer ?
Oh, bah, demandez à Claude Guéant, il est pas à côté ?
Non, il n'est pas là. Bon, d'autres bonnes idées ?
Moi, je propose qu'on donne 72 vierges, même à ceux qui se font pas exploser, en fait.
À vierge ? Bah là, je me sens pas concernée.
Quel âge, les vierges ?
Écoutez, vous me fatiguez, je vais changer de prison.
Oui, allez voir Benalla, il a toujours eu de bonnes idées pour diriger la France.
Oh, Gérald Bronner, qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec vous ?
Je vais pas me recycler dans le cinéma, manifestement. Donc, on va continuer la sociologie.
C'était très bon.
C'est un début.
Merci beaucoup, Gérald Bronner. Je rappelle que vous publiez Le cabinet de curiosité sociale au PUF et à venir, d'échéance de rationalité qui sortira le 20 mars chez Grasset. Merci beaucoup, Gérald Bronner. Merci, les amis. Merci, Rukyata Ouedraogo et tonton Théophraste, bien sûr. Merci, Pauline Girardeau, Alex Guillaume. On va laisser le mot de la fin à notre invité, à sa sagesse, à sa vision du monde.
J'essaye d'être un rationaliste dans un monde de fous.